Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en avril 2014 et c'est le numéro 34. Bonjour à tous, ce mois-ci autour de la table, mes chroniqueurs préférés. Koum.
Salut.
Cyril.
Hola, yo soy el Cirilo Pasto. ¿Qué tal?
Kélisto.
Salut.
Et Mickaël.
Oh,
vache.
Oui, alors ça, c'est les nouveaux sons, hein, pour essayer de distinguer davantage les différents participants.
Donc,
un qui parlera en espagnol, un qui parlera en orque.
Alors que c'est
et vous avez une option sous-titres hein, dans les.
Ouais, c'est bien, faut les faire les sous-titres, c'est vrai. Ceci dit, même quand on parle en français, faut peut-être de temps en temps mettre des sous-titres, ça pourrait être utile. Ça peut servir.
Au programme de ce soir, nous aurons donc Golden Sky Stories, They Became Flesh, la bulle de Cyril sur les livres de jeux de rôle. Oui, oui, sur les jeux de rôle.
Pas oui, oui, les livres.
Excusez-moi.
En seconde partie d'émission, nous aurons The Jewel of Yavin. Jewel of Yavin, une campagne pour Star Wars aux confins de l'Empire.
Non, Star Wars.
Oh putain, pour la guerre des étoiles aux confins de l'Empire.
Le joyau de Yavin.
puis Feed et enfin une nouvelle série de chroniques de Mickaël sur comment utiliser une série en jeu de rôle.
Voilà, copyright Cédric Ferrin.
Et nous allons tout de suite commencer avec Golden Sky Stories.
Alors, si pour vous le summum de la violence c'est de shooter dans un caillou sous le coup de l'énervement, tout en étant bien conscient que cet acte peut bouleverser par votre faute la vie de quelqu'un, alors Golden Sky Stories, hein, ça peut être pour vous si vous aimez le kawaii et les enfants et les animaux à fourrure.
Mais aimer dans le sens...
Dans le sens, je suis ouvert d'esprit, voilà. et j'ouvre mon cœur aux autres. Voilà. Golden Sky Stories, donc, c'est la traduction américaine de... You yake ko yake.
C'est toi qui aurais dû faire une présentation japonaise. Ah,
Donc en japonais, ça se prononce bien évidemment You yake ko yake, sûrement. Un jeu de Ryo Kamiya qui avait commis déjà Made RPG. Alors il faut savoir que j'ai choisi de chroniquer Golden Sky Stories, mais au début j'ai posé la question, je sais plus à quel public, hein, mais c'était est-ce que vous voulez le jeu de rôle sur les petits animaux ou le jeu de rôle sur les Made, et on m'a dit les petits animaux.
Oh. Oui, je sais pas à quel public t'as pu bien demander ça, parce que dans les rôlistes, c'est une réponse un peu étrange quand même.
Alors, 2D sans face avance sur la traduction de ce jeu, qui sortira sous le nom plus parlant de Conte du Soleil Couchant. Voilà, en français. Golden Sky, ça nous invite à retrouver de la magie ordinaire, de la magie du quotidien, en mettant un MJ et un petit groupe de joueurs dans la peau d'animaux qui prennent forme humaine, donc des Enge, hein, ou Enge Yokai, dans un petit village.
Enge
Yokai.
Enge Yokai, c'est des changeurs de forme,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais,
changeurs de forme japonais.
Là, ils le mettent d'accord. En Enge, c'est transformation, en fait, quoi. Ouais.
D'accord. Parce que moi, je connais pas bien.
Réviste Naruto, quoi.
Alors que yokai, je crois, c'est fantôme, non?
Bah, yokai, c'est une espèce de mélange fantôme-fée.
Ouais,
voilà.
Et il se transforme en renard à sept queues qui ravage toute la vallée
ou... Ouais, alors non, ça c'est peut-être dans les extensions. Hein, mais là, pas encore. Donc, on joue dans un petit village japonais en pleine campagne pour des parties courtes d'une ou deux heures. C'est un ouvrage noir et blanc, abondamment illustré d'images kawaii, hein, donc mignonnes. Les 144 pages sont divisées en 4 chapitres qui sont autant de saisons. L'intro dans le printemps, la création et les règles dans l'été, la partie MJ pour l'automne, avec beaucoup d'exemples de jeux, ce dont est un petit peu spécialiste l'auteur. Il y a aussi deux scénarios dedans et moult PNJ typiques et un village entier dans la partie hiver. Ah oui, j'ai pas parlé du prix, j'avoue que j'ai pas vérifié, moi je l'ai chopé ça dans un accord, un bundle of holding. Un truc que j'arriverai jamais à le dire.
J'ai pas compris toute la phrase.
Le bundle of holding.
D'accord, un bundle
of holding. La fameuse, là où on avait eu tous les.
Ouais, oui, voilà. Pas cher.
Ouais, c'est ça. Et ça permet de faire des chroniques. Hein. C'est rentabilisé facilement, un bundle of holding.
Mais le problème, c'est que si tu parles du bundle of holding qui a lieu maintenant, le temps qu'on soit diffusé, peut-être que ce sera trop tard.
Il
faudra
qu'il y en a un par
semaine.
Voilà,
il faut suivre.
Ouais. J'hésite, je me tâte. Là,
c'est rentable. Il y en a un par semaine, tu as dit?
Un par semaine, différent.
Vous aviez qu'à anticiper sur nos chroniques. Enfin, je veux dire, si vous faites pas d'efforts non plus.
Voilà, c'est vrai, t'as raison. Comme je pense que, voilà.
Bah, déjà, j'avais dit, mes caves venaient déjà du même bundle. Éventuellement, voilà. Si un jour je suis courageux, je vous ferai Moto Bushido. Mais c'est pas gagné.
Moto Bushido, c'est du Bushido à moto.
Ouais, C'est des samouraïs à moto.
Oh putain.
Avec des règles de duel.
Quoi, c'est pas mal en fait.
Ouais, et il y a aussi, il y avait aussi un truc, ah, je sais plus comment ça s'appelle ça, magicien ou un truc comme ça, où on est censé apprendre le coréen en faisant de la magie.
Ah,
ça,
ah oui, j'ai vu que Kickstarter c'était une bonne idée. Ça.
Ouais, bah, mais bon,
ça marche. Parle-nous du jeu.
On voulait juste dire que le Bundle Folding était rentable et grâce à ça, il pouvait faire ses chroniques.
Je peux faire des chroniques pour une année en fait, grâce au. Ça c'est bien, pour 15$.
Juste avant que tu rentres vraiment dans Golden Sky,
oh,
dans Golden Sky Stories. Ouais. Le bundle of holding, là, tu peux. T'as plus d'infos sur le concept, tout ça
pour... Alors, le concept, tout bêtement, toutes les semaines, ça doit être le lundi, je crois. On a une petite. Ceux qui sont abonnés à la page, etc. Ou alors on cherche de Docteur Dandy qui est toujours prolixe d'informations sur ce sujet. On part avec 3, je crois, c'est 3-4 jeux pour un prix basique, je sais plus, de quelques dollars. Mm-hmm. Et en fait, progressivement, sont rajoutés, au fur et à mesure qu'il y a des gains, sont rajoutés d'autres jeux en supplément. Et si tu verses au moins ce qui était payé, ce qui était payé par les autres utilisateurs en moyenne, donc forcément ça a tendance à augmenter un petit peu avec le temps, tu gagnes tous les jeux bonus. Donc en fait généralement pour 15$ ou 20$ tu te retrouves avec 6 jeux, 10 jeux. Alors ça tourne, ils ont déjà fait un tour complet. Alors j'ai pas trop suivi, je suis pas à la pointe de l'actualité, donc je sais pas s'ils représentent texto les mêmes jeux quand ils font une réédition entre guillemets, ou si. Ils gardent le même intitulé mais en changeant légèrement les jeux ou un truc comme ça. Là, d'accord. Je sais que par exemple pendant. Ah, mais ça sert à rien d'en parler. Bon, je vais pas vous dire ce qu'il y a dans celui d'aujourd'hui, ça sert à rien.
Surtout que lundi.
Vous allez se dégoûter, donc bon.
Voilà, c'est ça.
Oui, voilà, on peut pas faire les.
Donc, okay. Golden Sky Stories.
Donc, oui. Golden Sky Stories. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce village japonais? Ben, on y joue donc comme je disais, des drames du quotidien. Alors, des amis fâchés, un enfant malade parce que le dieu de la rivière l'a arrosé. Hein,
oui, parce qu'il avait fait pipi dans la rivière.
Bah, voilà. Tu connais toute l'histoire. Rien, tu connais le scénario.
Ah, pardon.
T'as spoilé mon scénar. un enfant qui ne veut pas rentrer chez lui le soir, un animal qui va être pris dans un filet. Et donc, bien souvent, en fait, la solution va être simplement d'ouvrir son cœur et de laisser parler ses sentiments. Donc chaque Enge a quatre caractéristiques, animal pour le physique, Enge pour tout ce qui touche à la magie, adulte pour cacher ses émotions ou pour démarrer une voiture, normalement il n'y en a pas trop dans le village, et enfant pour s'amuser, exprimer ses sentiments ou avoir l'air innocent et fragile. Elles ont une valeur fixe de 1 à 4, en général on a 2. Chaque animal parmi les 6 proposés, donc on a un chat, un chien, un oiseau, un renard... un lapin et un tanuki. Donc le tanuki, c'est ce qu'on appelle normalement un chien vivrain, je crois, en français.
Mais
c'est
trop mignon.
Il n'y a pas la souris. Je pourrais pas jouer la petite souris qui va chercher les dents.
Non, parce que c'est pas.
C'est pas une sorte de raton laveur à grosse couille. Hein.
Bah, oui, alors, bon, à grosse couille dans la vie réelle, je ne sais pas. Dans le mythe,
non,
oui.
Non. Voilà. À grosse testicule, trop mignonne.
Oh, c'est chou.
C'est peut-être pour ça qu'en fait, dans le bouquin, ils ont mis que des. Ils ont mis que des personnages féminins. Tout en disant que tu peux tout à fait jouer des.
C'est pour éviter d'avoir les poils soyeux sur les couilles. Ouais, d'accord.
Et puis ça doit être gêné pour marcher en plus.
Ouais. Non mais bon ça c'est mais c'est non parce qu'il les transforme en fait. Bon à ce sujet-là, regardez Pompoko, vous verrez plein de tanuki, c'est super, c'est une fable écologique triste avec des tanuki éco-terroristes. Bah si, c'est à mon avis, ils sont obligés de s'en prendre un peu aux ouvriers, mais bon, on dérive beaucoup.
Beaucoup.
Oui, pardon.
C'est pas grave du tout.
Concentre-toi.
Arrêtez l'alcool.
Donc chaque animal parmi les 6 qui sont proposés a des 6 capacités magiques basiques. Et à ça, on ajoute 6 paires de faiblesses pouvoirs additionnels. C'est-à-dire qu'on a tout le monde à 6 pouvoirs basiques, et en fait, on va devoir sélectionner au moins une faiblesse, et jusqu'à un maximum de 3 parmi 6 autres qui sont proposés. Et donc, on gagne un pouvoir, et qui est... Voilà, c'est genre... Ah, mince. C'est un avantage, mais qui est lié. On est un peu dans la même catégorie de pouvoirs, quoi. Donc, en gros, si j'ai mon lapin qui fond en larmes facilement... Et bah du coup le fait qu'il ait l'œil larmoyant va l'aider à apitoyer les gens et à obtenir ce qu'il veut.
D'accord.
La partie la plus importante et la plus fluctuante de la fiche, ce sont en fait les relations qui lient les Enge les uns aux autres et aussi au village. Le village par défaut en fait qui vous accepte. Et en fait tous les gens qu'on va rencontrer au fil du jeu, bah on va développer des relations avec eux. Elles s'expriment d'une manière chiffrée aussi, ce qui peut monter jusqu'à 5, et elles ont une nature, comme confiance, admiration, membre de la famille, acceptation, et elles sont pas nécessairement réciproques. Donc je peux aimer Cyril, mais lui, non. Et c'est triste.
Et donc tu pourras la remoyer après.
Bah, par exemple, si j'ai pris le lapin, mais qui est vachement bien. La somme des valeurs des relations qu'on éprouve pour les autres donnera un nombre de points de merveille équivalent à chaque début de scène. Donc si j'aime, si moi j'aime les gens, je gagne des points de merveille. Et la somme des valeurs des relations qu'on éprouve pour nous donnera un nombre de points d'affection équivalent au début des scènes. Donc si on m'aime moi, je gagne des points d'affection. Avec les points de merveille, je vais pouvoir utiliser mes pouvoirs magiques. Tout simplement, hein. Et avec mes points d'affection, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la valeur de mes caractéristiques pour un test. C'est-à-dire qu'en gros, les difficultés, tu peux jamais les battre avec ton niveau. Donc tu dois utiliser, tu dois gérer un petit peu ton pool pour affronter les difficultés que le MJ va te mettre en face, quoi. Okay. Et en faisant un mix de points de merveille et de points d'affection, les répartissant un petit peu comme je veux, je vais pouvoir me transformer en être humain. Et donc ce qui va un petit peu faciliter la vie. Et sachant que c'est plus facile au crépuscule, d'où le nom du jeu en fait, parce que c'est principalement là, au soleil couchant, qu'on va rencontrer les animaux transformés. Et c'est aussi plus économique que si je laisse ma queue et mes oreilles. Et oui, hein, si je les laisse sortis quand je me transforme. Voilà, donc avec ma jolie queue de raton laveur, etc. Mais bon, les vieux papis du village sont habitués, ils savent qu'il y a des animaux dans la forêt, etc. Ils ne sont pas méchants.
Ton perso, par exemple, il peut avoir toujours ses oreilles de renard qui sortent.
Tout à fait, voilà.
D'accord. Et les gens disent rien.
Comme Super Mario.
Les vieux, en fait, ça passe parce que bon, ils ont l'habitude, ils savent un peu, etc. Et puis bon, c'est le crépuscule, on voit pas bien. Et puis les enfants, ils sont jeunes et innocents, donc ça les gêne pas trop que t'aies une grosse queue touffue, quoi.
Voilà. Ok, ça fait partie du paysage finalement.
Voilà, c'est ça, c'est pas super. C'est pas extrêmement. Il n'y a pas trop de préjudice en fait. Les gens ne sont pas très sectaires avec les animaux qui se transforment en fait.
C'est après, tu le vois avec des fourches.
Non, ils vont pas monter en haut de la colline pour brûler la forêt sacrée.
Ça, voilà. C'est si tu veux faire un hack du jeu éventuellement.
Ouais. Il y aura deux types de jets qu'on va retrouver fréquemment. Bah, la première impression, justement, quand la première fois où on se rencontre dans une scène, en fonction de comment j'ai fait bonne impression sur toi, soit par ma souplesse féline, soit parce que j'ai utilisé mes pouvoirs, etc., ou mon côté attendissant en jouant à la balle avec toi, eh ben, je vais pouvoir faire un test qui va plus ou moins te marquer, donc plus ou moins me rendre sympathique à tes yeux. Donc voilà. Et le deuxième autre test, attention, là on rentre dans la violence, c'est le test de surprise. Donc si j'apparais mystérieusement en fait devant quelqu'un, et ben éventuellement ça peut le, ou si je me transforme juste à côté de lui dans un pouf nuageux, et ben ça peut le surprendre, et il peut s'enfuir, il peut pleurer, donc voilà, c'est quand même des conséquences à ne pas prendre à la légère.
Ah oui, dis donc.
oui. Donc c'est,
le traumatisme est total. Hein.
Et c'est dans ces cas-là, en fait, où on peut me dépenser ses points pour diminuer ses caractéristiques, hein, histoire de dire que je t'effraye pas trop, quoi. À chaque fois que un personnage fait un truc mignon ou émouvant, les autres joueurs, le MJ inclus, vont le récompenser en lui donnant du rêve, sous forme de carte ou de compteur.
Il y a trop de guimauves.
Le MJ doit aussi doit être récompensé, sinon ses PNJ ne pourront pas augmenter leur relation. Hein, et avec ces points de rêve, justement, entre deux scènes, on va pouvoir acheter des points de relation pour les améliorer. Et éventuellement changer leur nature, genre je t'acceptais, en fait au final ça peut devenir de l'adoration, etc. En fin d'histoire, les points de rêve qui sont inutilisés vont être perdus. La somme des valeurs des relations qu'on a pour les autres représente un peu les XP du jeu. Ça va être transformé en points de mémoire qu'on pourra utiliser comme réserve de secours, en affection et en merveille dans les futures parties. Et pour finir, les relations existantes, elles sont consignées dans une autre partie de la fiche sous forme de liens tissés. C'est-à-dire, en gros, j'ai développé une relation avec Roberto.
Ton voisin. Roberto le lapin.
Ou par exemple, voilà, le lapin marteau. C'est parce que ça rime, hein, y a pas de...
Oui, parce que c'est...
Voilà, parce que c'est un nom de chez nous. Mm-hmm. Et du coup, en fait, la prochaine fois où je reverrai Roberto dans une future aventure, je pourrai ressortir mon lien tissé, le repasser dans ma grille de relations, et donc regagner des points grâce à lui à chaque scène. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Tu as l'air circonspect.
Oui, aussi éventuellement si on arrive à monter au niveau maximal, si les deux arrivent à monter à un niveau 5 en relation, c'est la folie. On gagne un petit surplus de points de merveille et de points d'affection à dépenser dans la scène suivante. Alors, j'ai fait un test avec 3 joueurs. Il faut un petit temps d'adaptation, on va dire, pour revoir à la baisse les enjeux auxquels on peut être habitué dans des jeux de rôle classiques. Et donc du coup, pour pouvoir, je dirais, un peu surjouer un peu des choses simples et voir futiles, mon support de jeu en anglais, ça a contribué peut-être un petit peu à freiner le jeu, mais dans l'ensemble, je pense que la part technique n'a pas vraiment soutenu la démarche du jeu, c'est-à-dire que là où le joueur est un peu paumé il sait pas trop bah, qu'est-ce que je peux faire de mignonnet. Il aurait dû pour moi pouvoir se rabattre sur sa fiche de perso pour avoir un panel de choses à faire. Ouais. Et lui, qui lui aurait indiqué le ton. Mais en fait, il tombe sur une liste de pouvoirs qui souvent nécessite des points de merveille. Donc il demande une dépense pour être lancé. Et du coup, bah, il ne les lance pas parce qu'il n'a pas les points. Parce qu'en fait, on va avoir de plus en plus de points au fur et à mesure que la partie avance. Puisque je développe mes relations entre chaque scène, à chaque nouvelle scène, je regagne des points de merveille, je regagne des points d'affection, et j'en gagne donc plus que la partie de que la scène précédente. Mettons qu'en première scène, je vais avoir 3 ou 4 points de chaque, à la suivante, bah, 4, 5, 5, 6, et compagnie, quoi. Ce qui fait que, au final, bah, en début de partie, je peux pas trop utiliser mes pouvoirs, à la fin de partie, bah, il me sert plus à grand-chose.
Donc en fait le mécanisme avec les merveilles il est pas adapté parce que quelque part parce que ça veut dire que t'es très bridé au début du jeu alors que c'est justement voilà. Là où tu vas poser une ambiance
c'est ça
et après à la fin bah c'est un peu trop tard dans l'absolu quoi si ta partie elle a pas pris si la sauce elle a pas pris au début bah t'es un peu comme un couillon non
bah ouais parce que je me rappelle dans la première une des premières scènes bah un personnage c'était du style bah qu'est-ce que je peux faire avec les points que j'ai bon bah je peux transformer un gland en argent enfin en argent en pièce de monnaie ou un truc comme ça bon bah ou en des glands ou des feuilles c'est le tanuki et donc il le fait mais bon il avait déjà amputé la moitié de sa réserve de magie quoi et du coup bah par exemple avec ces pouvoirs là bah on a un chien qui gagne quelque chose normalement si on lui fait du gratouille des gratouilles mais pour ça il faut qu'il ait 6 points de merveille et 6 points il les aura pas en première scène. D'accord. Donc, c'est pas la peine de faire des trucs sympas en première scène, puisque même si quelqu'un a un PNJ de gratouille, bah, tu gagnes rien en échange, et en fait, tu gagnerais de toute façon 2 ou 3 points d'affection en échange. Donc, pour 6 points, t'en gagnes 2-3. Il y a un petit problème d'équilibrage aussi.
Ah oui. Oui, d'accord.
C'est okay. Pas toujours. Les investissements en fait en points sont pas toujours rentables, quoi. Ou alors, je fais une super acrobatie, mais ça me coûte 6 points, 8 points, parce que je suis un chat. Et parallèlement, ce même chien, en fait, il a la possibilité d'aimer tout le monde. Et ça fait que bah il a une relation avec qui j'aime tout le monde, qui lui donne 3 points de merveille de plus que les autres Engue dès le début du jeu. En fait, il a 3 scènes d'avance sur les autres.
Ah d'accord, donc il y a un déséquilibre, c'est pas
évident. Et oui, on fait une partie, ça dure 4 ou 5 scènes. Eh oui.
Ah oui.
Voilà, alors dans le même style, on a le tanuki paresseux, il peut gagner plein de points de merveille en faisant la sieste.
Il y a une pause goûter au milieu de chaque partie.
D'ascension, on a une table de rôliste, je te rappelle qu'on goûte en permanence.
Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, on peut les minimaxeurs trouvent leur bonheur comme dans le jeu parce qu'ils vont faire tout de suite un chien pour avoir ouais. Les 3 scènes d'avance, les 3 points.
Oui, c'est un peu
dans
ça.
Dans un type de jeu comme ça, c'est étonnant quand même.
Bah, ouais, je vais y venir. Ouais. Le tanuki, bon, il a la possibilité de paresser en gros pour gagner 6 points de merveille. Donc, quasiment ce qu'il devrait banquer en une scène ou deux scènes complètes. Mais en fait, il le gagne pour gagner ça, en fait, bah, faut qu'il soit absent pendant une scène. Et donc sur un truc de 4 ou 5 scènes, on estime que tu vas quand même être là à la première scène et là à la dernière, histoire de voir un peu quand même. Ouais. Donc si tu te barres au milieu pour faire la sieste,
il faut bien que quelqu'un s'occupe des pizzas.
Oui. D'ailleurs Cyril, j'entends le four qui...
Ah oui, alors du coup tu peux... Il faudrait qu'il soit absent pendant 2 scènes, il revient, il fait un truc avec les points qu'il a accumulés et paf, c'est terminé.
Ouais, c'est un peu ça, donc c'est un petit peu dommage, surtout que comme dit, il y a une certaine variété, il y a pas mal plusieurs pouvoirs quoi. En deuxième ou troisième scène, du coup, pour ce même Tanuki, pour 8 points de merveille, bah, il va pouvoir se transformer en monstre, créant la surprise avec un bonus de 1. Exactement, en fait, comme si c'était transformé dès le début, genre ouais. Je suis à côté d'un être humain, je me transforme, que je me transforme de raton laveur en humain ou que je me transforme en gros monstre à grosse couille, et ben ça fait à peu près le même effet, c'est une synthèse de surprise. Donc en fait, en claquant un point d'affection en première scène, je peux faire la même chose qu'en attendant 3 scènes pour me transformer en monstre. Techniquement, ça a le même impact. Donc il y a pas mal de petits soucis d'équilibrage.
En fait, le système est un peu pingre avec le...
Il est surtout complètement déséquilibré.
Ouais.
Il n'est pas du tout adapté, oui.
Ouais,
c'est même pas punk parce qu'il est.
Il y a des trucs qui sont utilisables, bien évidemment, hein, mais sur ça, en fait, il faut aussi greffer un système de points à dépenser pour réussir les actions. Parce que, comme j'ai dit, en fait, on a 1 à 4 en fait, sur des caractéristiques de base, et à chaque fois, il faut claquer en fait, des points supplémentaires pour réussir ses actions. Tous les jeux comme ça, moi, un peu d'attrition par scène, je trouve que c'est difficile à jauger. C'est-à-dire pour les MJ, tu peux pas vraiment avoir une politique d'attrition parce que ça voudrait dire que t'obliges tous les joueurs à faire le même jet. Or, il y a plein de personnages qui ne vont pas avoir cette possibilité-là. Il y a, le Tanuki, si tu l'as pris un peu version un peu rondelet, son niveau d'animal, donc son niveau de physique, il est à 1, il peut pas vraiment le booster, je crois. Donc il rate automatiquement tous ses... s'il veut grimper à l'arbre, bah, c'est mort.
Il faut qu'il se transforme
donc,
en monstre.
D'un autre côté, il est rondelet, donc tu vois, il a du mal, voilà. En fait.
S'il veut grimper à un arbre, il fait une sieste d'abord, puis après. <C'est ça. rire>
Et du coup... au démarrage, pour moi, on est quand même assez limité, que ce soit en magie ou pour réussir ses actions. Et sur la fin du jeu, t'as quand même fait une accumulation parce que t'as pas nécessairement besoin de placer des pouvoirs ou d'affronter des difficultés à toutes les scènes. Du coup, tu te retrouves avec. J'avais pris des compteurs, moi, physiques, pour les représenter. À la fin, avec mes 36, j'avais 36 compteurs, mais il m'en fallait plus que ça, largement. Il fallait des brouettes de dés pour représenter les points de merveille. Et il y en avait pléthore chez les joueurs, quoi. Et du coup, il y avait même plus trop besoin de se pencher sur les pouvoirs, qui au final, tu dis, ah ouais, mais en fait, je vais pas claquer 10 points pour en gagner 2 d'un côté, ça me sert à rien. Bon. En résumé, pour moi, il y a une très bonne idée de base. Il y a une multitude de scénarios possibles. Une bonne règle de base avec le développement bilatéral, en fait, des relations. Mais pour moi, il manque une passerelle technique qui aurait dû être le tremplin permettant aux joueurs déphasés de franchir plus facilement le pas d'un jeu feel good, en fait. Pour moi, c'était vraiment ça. Tu prends ta fiche, tu sais pas comment jouer, mais c'est pas grave parce que tu vois que ton tanuki, il fait un gros bruit du ventre et du coup, tout le monde voit qu'il a faim et tout le monde veut l'aider. Et donc, je pense qu'on peut facilement. Il y a rien qui ne puisse s'arranger avec un petit peu de bricolage. Je sais pas, tu divises par deux le coût des pouvoirs ou tu changes un petit peu. Mais voilà, pour moi, il y a un petit.
Ou t'élimines le problème de l'attrition au début pour pouvoir.
Ouais, j'avais pensé un truc du style, tu rajoutes la valeur d'une relation avec la valeur de ton attribut pour obtenir pour te confronter aux difficultés. Alors, nous avons dans la salle une auditrice dans le.
Oui, nous avons du public aujourd'hui.
qui a joué aussi, donc du coup, si elle veut bien venir.
Veux-tu bien rejoindre la table?
Allez. Cyril, tu lui fais. Voilà.
Alors, j'en profite pendant ce moment de transition pour dire que la maquette du jeu est assez jolie. Surtout, la feuille de perso est vraiment jolie pour le coup.
Les illustrations aussi sont assez réussies. Ouais. Je trouve. Alors, bon, les personnages, c'est très manga évidemment. Ouais, mais quand on regarde sur le côté architectural et les dessins de lieux, c'est vraiment magnifique. Il y a du début en tout début en couleur, sinon c'est en noir et blanc, mais c'est un beau livre. Il n'y a peut-être pas énormément. Les illustrations sont regroupées plutôt à certains endroits.
Oui,
donc il y a quelques pages, il y a pas mal de pages où il n'y a pas d'illustration, mais globalement c'est très très joli.
Mais ça rend bien l'idée. Et comme je dis, il y a une pléthore avec tout ce qui est décrit, le paysage, les dieux locaux et compagnie. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités de jeu, surtout quand effectivement c'est des choses qu'on va régler en 1h30, 2h. Peut-être que ce défaut en fait serait un petit peu de manque de points serait corrigé à partir du moment où on rejoue avec les mêmes personnages.
Ah, donc les points de mémoire permettraient de franchir le gap.
C'est ça, t'as les points de mémoire qui, je pense, te permettent d'investir directement dès le début du jeu. Et ça, c'est un truc que je me suis dit, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de faire deux tests.
Mais en même temps, comme les gains en même temps sont super faibles.
Pour moi, en fait, je pense que l'abondance de gains progressifs dans le jeu, en fait, camoufle le déséquilibre, en fait.
Okay.
Ça jette un voile pudique, en fait, sur le déséquilibre. Et aussi le petit souci c'est que ces mêmes liens tissés quand tu les reprends tu regagnes un niveau, c'est-à-dire si tu rejoues avec Roberto tu gagnes un niveau supplémentaire en fait la partie suivante, donc très rapidement si tu joues 3 fois avec les PJ tout le monde est à un niveau 5. Et là aussi on se retrouve avec du on joue à 3, on commence tous avec 15 points et là aussi ça peut être un peu restrictif sur le jeu à moyen terme, je dirais, quoi.
Très bien. Et tiens, alors, si on.
Alors, on me fait signe que je parle trop et je passe donc.
Mais non, faut surtout poser une question.
Alors qu'as-tu pensé de cette partie où tu as joué un chien?
Moi.
Bonjour. qui êtes-vous?
Bonjour, les gens.
Oui, tu n'as pas de nom.
Non, je suis la spectatrice de Nîmes.
D'accord, ça marche.
Alors, donc, moi, en termes de jeu, de plaisir de jeu, je me suis bien amusée. Donc
oui.
J'ai passé un bon moment. C'est pas comme les parties où. Ou à l'inverse, je dirais le système est tellement compliqué qu'on a du mal à apprécier ou quoi. C'est-à-dire là, on apprécie, même si, comme l'a dit Cal, on ne peut pas vraiment utiliser de façon intelligente, je trouve, le système.
Le système, oui.
Après, ce que j'ai trouvé, c'est que de la même façon que les enjeux sont moindres, sont modérés parce que c'est des petits trucs d'enfants, etc., le plaisir aussi s'en trouve modéré. Parce qu'en fait, on n'est pas aussi impliqué que dans un jeu où on se bat pour quelque chose d'important, où soi-même, on est à fond, en fait. On peut être à fond dans le jeu du mignon, du tout, enfin là, du petit toutou, du petit oiseau, c'est mignon. Mais ça, c'est bon, même si c'est le RP, c'est vraiment le décor. C'est pas ça qui crée le côté intense du jeu, en fait.
D'accord. Il y a même, mais peut-être que dans les scénarios, il est possible d'évoquer des menaces un poil plus.
Non, parce que le combat est vraiment pas au programme.
Non, je pensais plutôt, il y a un chat qui est sur un arbre. Or, il y a eu une inondation, il y a de l'eau partout. Pour aller le chercher, c'est compliqué.
Bah là, en fait, en l'occurrence, le scénario, c'était un scénario de convention qui s'appelle A Cop Out of Water, je crois. Et les Engue rencontrent un petit gamin qui veut dans un bac à sable, enfin là où t'as les petits manèges, les petits tourniquets et compagnie. Uh-huh. Et en fait, il s'est vu comme c'est un sale gamin, il s'est fait confisquer son ballon par un policier qui est en vacances. Et qui a du mal à lâcher, si tu veux. Donc même dans le village, il continue de se croire comme en ville.
Mmh. D'infliger des contraventions.
Son... Ouais, c'est ça, ouais.
Non, oui. En fait, l'idée, c'est qu'on est tellement gentil, tellement le cœur plein d'amour, que en fait, c'est ça qui fait aussi que les enjeux sont... En fait, on est tellement gentil, tellement choupi, qu'en fait, les choses sont moins fortes que quand tu as du conflit. C'est tout bête. Ouais. Enfin, moi, je préfère les jeux un peu à conflit. Ouais. Si tu veux, ça fait penser un peu...
Où t'as pas d'un... pulsion forte, ces genres de haine, même de si colère.
Voilà.
De...
Même si t'as un truc énorme qui est en face, ben, tu vas pleurer parce que t'es un gamin ou quoi, ça passe en 30 secondes parce que t'es un enfant. Et souvent tu vas prendre les choses bien avec le rire, enfin, ça dépend aussi comment tu interprètes, mais voilà. Mm. Je dirais que c'est un peu comme, tu vois, sur les réseaux sociaux maintenant où tu peux plus rien dire sans que quelqu'un arrive à un moment et dise, oh, je suis vraiment déçu par ton attitude, je trouve que c'est pas bien, t'as pas le droit de juger les gens. Et ben, c'est un peu comme si le monde était comme ces gens-là, aimeraient qu'ils soient. Donc on s'aime tous, on a tous le même avis, on est tous contents de tout, et voilà. Et du coup, tout est plat.
Ah, c'est très lisse en fait.
Voilà, c'est très lisse. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que tu t'impliques moins. Mm-hmm. Et de la même façon, le coup des rêves que tu donnes aux gens, quand ils font un truc mignon, etc., ça c'est possible au début quand le jeu se met en place, parce que si t'as quelqu'un d'un peu. Actif ou quoi, tu vois, tu peux voir qu'il fait un truc mignon, mais une fois que t'es vraiment dans le jeu, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, t'es tellement dedans pour essayer de résoudre l'action que tu fais plus gaffe à qui fait quoi de mignon et tu les donnes plus tellement les rêves en fait. Entre joueurs, on se les donne plus des masses. On s'en donnait beaucoup au début, puis il fallait limite se forcer.
Deux premières scènes, etc. Histoire de... C'est bon, vous avez compris, c'est comme ça qu'on donne des points. Et puis en fait, après, tu l'oublies.
Après ça passe à l'as, quoi.
Ouais, ouais.
Ou alors, tu prends un recul par rapport à la scène pour dire, tiens, finalement, c'est mignon ce qu'il a fait. Tu lui donnes un truc, mais du coup, tu sors du seul truc intéressant du jeu.
Alors que toi-même, t'es déjà en train d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire de mignon.
Oui, voilà.
Oui, non, mais...
Oui, ça casse un peu.
La lutte du mignon.
Quand on était habitué durant des années à réfléchir comme un dangereux criminel ou comme un barbare, c'est difficile quand même de changer l'optique.
Le dominion.
Donc je rends l'antenne.
Bah merci pour cette aide.
Merci. De rien.
Donc oui, on enchaîne.
On a enregistré la partie, donc je pourrais mettre un lien sur le...
Ah oui, tu enregistres tes parties et tu les mets sur le net.
Oui.
Ah, t'es comme ça, toi.
Ouais.
D'accord.
Et je tape même le résumé.
Oh là là.
Et ça, c'est pour tout ce qui est Monster Hunter, Saga of the Slender, etc. Donc, c'est un peu long.
Et ça serait peut-être pas mal que tu mettes des liens pour Saga of the Slender, justement, pour faire raccord avec ta chronique. Oh bah, si les gens ont été intéressés, mais se posent la question.
En fait. Je crois que ça doit déjà être mis à l'époque, Wiki.
Ok.
Bon. Voilà.
Fini. Eh bien, merci. Nous allons maintenant passer à They Became Flesh.
Tout à fait. Donc, They Became Flesh, c'est un jeu de rôle, donc comme son nom l'indique en anglais. Donc, ce sera une chronique uniquement réservée à nos auditeurs anglophones qui sont nombreux.
Et avec un bon accent.
Oui, parce que sinon, quand tu proposes le jeu, tu passes un peu pour un con et du coup, plus personne veut jouer avec toi. Donc, c'est un jeu d'un couple d'auteurs, donc Elizabeth Shoemaker Sampat. Et Shreya Sampat,
comment est-ce qu'on fait,
qui est édité par Two Scooters Press. Donc
ils sont tous les deux cul-de-jatte.
C'est
une...
bah, c'est...
non, il y a.
Non, mais
y a
la dire, le concept intéressant.
Oh putain, non, mais... faut qu'on le laisse travailler en fait.
Ils font des chaussures sans pattes. Moi, ça me. Moi, ouais, je suis beau.
Sans pattes cordonnier pour la femme. Je tiens
bon,
à dire.
Est-ce que je peux faire ma chronique, s'il vous plaît? Donc, qui est sorti en 2011, auto-édité. Il me semble que c'était un Kickstarter à l'origine. Et donc voilà. C'est un livre A5, couverture souple. Il fait 42 pages, donc il est relativement petit. Et qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un petit jeu en taille, mais aussi dans son ambition, mais c'est pas du tout un défaut. Sur le dos du livre, on trouve des indications comme sur les jeux de société maintenant, donc avec le nombre de joueurs, etc. Donc c'est indiqué clairement que c'est fait plutôt pour des one-shots de 2-3 heures ou éventuellement sur. Pour des mini-campagnes, si les gens sont conquis. Alors en fait, dans They Became Flesh, il y a trois types de joueurs. Il y a deux MJ différents et les PJ. Et alors, les PJ, c'est des anges déchus qui sont sur Terre, donc qui sont donc devenus chers, comme le titre l'indique, et qui sont sur Terre parce qu'ils ont remis en question la parole divine. Et ils doivent en fait maintenant choisir quel va être leur destin. Est-ce qu'ils vont demeurer parmi les hommes, quitte à perdre leur nature angélique? Est-ce qu'ils vont se tourner vers le divin et lui demander pardon? Est-ce qu'ils vont rester auprès de leurs camarades déchus et se serrer les coudes? Et l'enjeu de chaque partie, de chaque scénario, c'est ça en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire au final. Et donc face à ces anges déchus, il y a deux types de MJ. Il y en a un qui joue Dieu et ses anges, et l'autre joue l'humanité. C'est un jeu qui est conçu pour créer des histoires collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario préécrit, c'est les MJ qui posent les bases du récit et qui le prolongent ensuite pendant la partie avec l'aide des joueurs. Donc avant l'histoire proprement dite, il y a la phase de création de l'univers. Donc Dieu, ça fait bizarre de dire ça, mais Dieu choisit le décor, on va dire, dans une liste. Donc il y a plusieurs propositions, un désert à perte de vue, un paradis fertile mais encerclé d'ennemis envieux, une île qui vient d'émerger des flots, etc.
Un village japonais avec des petits animaux.
Voilà, par exemple. L'humanité choisit le caractère justement des êtres humains, donc ils peuvent être par exemple, donc il y a une liste aussi hein, accueillants mais capricieux, riches et prompts à mener bataille, superstitieux et paresseux, etc. Ou petits animaux mignons, effectivement. Et enfin, dernière étape, les anges déchus choisissent entre eux quel est le symbole de leur déchéance. Donc est-ce qu'ils ont des ailes de cendre, est-ce qu'ils ont des yeux couleur de sang, des sabots de bête, etc. Et tout ça, bon, c'est bien sûr les bases qui évoluent ensuite pendant la partie. Et en passant, c'est pas un jeu qui est figé dans le temps, c'est-à-dire que même si le thème laisse penser qu'on va plutôt jouer dans l'Antiquité, voire à une époque de première civilisation, il précise qu'on peut tout à fait jouer dans notre monde contemporain. Bon, ça me semble peut-être un petit peu plus, enfin moins naturel, je dirais, vu le thème, mais pourquoi pas. Donc une fois que cette phase de création, qui est assez rapide, je pense, est faite, on lance la première partie, enfin le début de la partie proprement dite. La partie, en fait, enfin les parties de They Became Flesh, c'est toujours autour d'un principe d'observation, c'est-à-dire que Dieu et l'humanité vont balancer des défis aux anges déchus, et selon comment ils réagissent, bah, l'histoire progresse. Donc Dieu, il a pour tâche, avant de commencer, de créer trois anges à ses côtés qui représentent les trois aspects de sa puissance divine. Donc il y a le messager qui porte sa voix, il y a le donneur de bénédiction, donc son cœur, et le porteur de courroux, donc son épée. Et il va également décider de leur apparence, donc est-ce que ça va être des hommes ailés comme on en a la représentation classiquement, est-ce que ça va être des halos de lumière, est-ce que ça va être des choses un petit peu plus bizarroïdes, c'est à vous de voir. Et chaque ange a également une vision différente de l'humanité, et n'a pas non plus forcément la même relation avec chaque ange déchu, pas réussir à le dire jusqu'à la fin de la chronique. Donc en gros, les anges, c'est des outils pour créer le conflit, quoi. Ils ont chacun, même s'ils représentent Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur but personnel, mais ils ont quand même leur propre point de vue sur les choses.
Et sur leurs anciens camarades.
Et sur leurs anciens camarades. Donc du coup, est-ce qu'ils vont plutôt chercher à les aider, ils vont les regarder avec compassion, au contraire, ils vont leur mettre des bâtons dans les roues en jugeant qu'ils sont plus dignes d'être respectés, etc. Et Dieu réfléchit aussi à son plan divin. Qu'est-ce qu'il attend de ses ouailles, quels sont ses projets pour l'avenir, etc. Et ça va prendre la forme notamment de révélations que ces anges doivent apporter au fur et à mesure de la partie. Et les révélations sont par nature assez vagues. Ça va être par exemple, lorsque, j'en sors un de mon chapeau, lorsque la lumière resplendira, vous multiplierez les oliviers, par exemple. Donc c'est un truc qui est fait pour être laissé à l'interprétation ensuite des joueurs, comment ils vont appliquer cette révélation.
Ou lorsque le millième like sur le lolcat surviendra, alors Dieu pourra créer une créature encore plus mignonne.
C'est ça, ou quand tu fais une blague sur les blondes, Dieu tue un chaton. C'est des révélations possibles. L'humanité ensuite crée elle aussi l'univers, donc notamment les êtres humains, et en fait elle, son principe, c'est les humains ont des problèmes. Donc il faut qu'elle présente un peuple ou une colonie en le décrivant sommairement, et en présentant dès le départ un problème que les anges déchus ont le choix de résoudre. Donc un problème, ça va être, il y a une sécheresse, et donc les gens vont mourir de faim si vous ne faites rien, la rivière est en crue, du coup certains villageois sont séparés de leurs biens, etc. C'est vraiment, à la base, poser une situation assez simple qui va, encore une fois, évoluer selon ce qui se passe. Et les anges déchus eux-mêmes vont écrire trois choses sur leur fiche de personnage. Pourquoi ils aiment les humains, c'est leur compassion. Pourquoi ils aiment leurs camarades déchus, c'est leur fraternité. Et qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils regrettent du paradis, c'est leur souvenir. Je reviendrai après sur ces trois aspects qui sont assez importants. Les joueurs décident aussi, donc les anges décident aussi de leurs relations respectives. Est-ce qu'ils sont tombés du paradis ensemble? Est-ce qu'ils ont participé à une rébellion? Est-ce qu'au contraire, eux-mêmes n'étaient pas d'accord à la base? Est-ce qu'il y en a un qui vient d'être déchu, etc. Et ils décident aussi de leur place au sein de la communauté qui a été décrite par l'humanité. C'est-à-dire, ils décident si ils se font passer pour des êtres humains qui sont intégrés à la communauté, si ce sont des voyageurs qui viennent d'arriver, si au contraire ils assument totalement leur statut d'ange et se baladent comme ça en distribuant leur bénédiction. Et donc, voilà, une fois que tout ça a été réfléchi, on enchaîne les scènes et l'histoire se déroule donc de réaction en réaction. Donc, le MJ Dieu va gérer ses anges qui viennent donc, comme j'ai dit, apporter des révélations et des commandements, surtout quand l'action se ralentit en fait. Et il gère aussi la nature et ses aléas, donc la sécheresse, les inondations, les tempêtes, etc. C'est Dieu qui va les balancer sur la gueule des anges déchus. Et le MJ Humanité, lui, va mettre en scène le peuple élu et va mettre des embûches sur le parcours des joueurs, puisque évidemment, les humains vont venir leur demander de l'aide de façon plus ou moins directe, et surtout, les humains sont en général... ils n'ont pas tous la même personnalité, c'est donc en général assez difficile de contenter tous les humains qu'on a autour de soi, quoi. Je rentre pas dans les détails, mais une partie importante du livre tourne autour des conseils justement pour gérer ces deux aspects de l'adversité. Je trouve que c'est assez bien décrit. Quand on lit le bouquin, on a une bonne idée de ce qu'on peut mettre comme embûche sur la route des anges déchus. Alors, j'ai pas parlé des règles pour l'instant, parce qu'en fait, elles sont vraiment super légères. Je pense que tu peux les expliquer à tes joueurs en 5 minutes. En gros, les anges déchus, ils ont un type d'action, c'est les miracles. Pour tout le reste, ça se résout par la narration. Par contre, quand ils veulent réaliser quelque chose de miraculeux, là, il y a un aspect technique. Ils vont lancer plus ou moins de dés selon l'ampleur du miracle, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui choisissent quel impact va avoir leur miracle. Si c'est un petit miracle qui va, par exemple, toi, villageois, tu vivras jusqu'à 100 ans, enfin jusqu'à 150 ans, pour que ce soit un vrai miracle, là, ils vont lancer un dé. Par contre, si c'est dire, sur tout le royaume, il ne pleuvra plus jusqu'à l'hiver prochain, là, ça va être genre 5-6 dés, parce que c'est une ampleur plus grande. Et pour que le miracle réussisse, donc on lance les dés. S'il y a au moins un 5 ou un 6 sur un seul des dés lancés, le miracle réussit.
Ah oui.
Donc là, tu me dis, ah, mais c'est super facile de faire des miracles. Du coup, tu lances 14 dés et puis hop.
Ouais, mais tu dois vider un pool ou un truc comme ça.
Exact. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, à la base, les joueurs ont 14 dés à leur disposition. Et à chaque fois qu'il fait un miracle, donc il lance les dés, et que le miracle réussisse ou échoue, tous les dés qui ont fait une paire vont se fixer sur l'une des trois encres que j'ai décrites précédemment, c'est-à-dire la compassion, la fraternité ou le souvenir. Donc ça veut dire que plus tu fais des miracles, et surtout plus tes miracles sont gros, et plus tu as de chances que tes dés se fixent, et les dés qui sont fixés, tu ne peux plus les relancer. Donc au fur et à mesure du jeu, tu as de moins en moins de dés à lancer, et tu peux faire des miracles de moins en moins impressionnants. Alors, tu peux bien sûr te contenter de lancer des miracles à un dé pendant toute la partie, mais justement, c'est le rôle des deux MJ, c'est de te mettre face à des situations où un petit miracle ne suffira pas, il va falloir sortir la grosse artillerie, quoi. Et en plus de ça, les deux MJ peuvent intervenir dans les miracles que font les joueurs, c'est-à-dire qu'après qu'un joueur ait décrit le miracle qu'il compte réaliser, juste avant qu'il jette les dés, les MJ ont deux options. Soit ils vont ajouter des informations à la description qui a été faite pour changer l'encre utilisée. Par exemple, ils voient que le joueur a pas beaucoup de dés dans son encre, je sais pas, compassion. Donc, il va dire, il va changer la description pour que ça aille plutôt de ce côté-là. Non, au lieu d'aider tes camarades, non, finalement, ton miracle va surtout aider les villageois, quoi. L'autre possibilité, c'est d'ajouter ou de retirer un dé au jet, notamment pour forcer justement les pairs. Cet ajout ou ce retrait, alors c'est peut-être la partie la plus floue du livre, mais bon, c'est sur un paragraphe, donc c'est pas gravissime. En gros, ils peuvent le faire comme ça, sans se justifier. Ils peuvent négocier avec le joueur, genre, ah, mais si t'ajoutes un dé, ensuite je te promets que je te balancerai un peu moins de crasse tout à l'heure, ou menacer au contraire. Si t'ajoutes pas un dé, je te balance une tornade plus une sécheresse, et en plus tout le monde est stérile. Voilà.
Ouais, ça rigole pas quoi.
C'est Dieu quoi. Je veux dire, bon. Une fois que l'un des deux MJ a éventuellement dit j'ajoute ou je retire un dé, l'autre peut mettre un droit de veto sur le même jet. Donc après on lance les dés. Si le miracle est réussi, il est décrit par le joueur. Et si le miracle est raté, il est décrit par le MJ qui a le plus intervenu dans le jet. S'ils ne sont pas intervenus ou s'il y a une égalité, ils se mettent d'accord entre eux. Et on peut tout à fait enchaîner les miracles, surtout quand les anges déchus rivalisent de merveilleux entre eux. C'est-à-dire que t'en as un qui va faire un miracle, genre je fais pousser ce champ comme par magie, et l'autre dit « Ah ouais, bah du coup, moi je vais faire déborder la rivière pour que le champ pousse encore plus, etc. » Alors, en général, c'est avec des bonnes intentions, mais bien sûr, ça peut mal tourner. Donc on enchaîne les scènes comme ça, les anges font des miracles, et puis au bout d'un moment, il y a au moins un des anges déchus qui n'a plus de dés à sa disposition. C'est-à-dire que suite à un jet de dé, ça ancre le 14e dé. C'est la fin de la partie pour lui, c'est-à-dire que ça va être le moment qui s'appelle le jugement. Donc le joueur décrit son dernier miracle, et ce miracle-là va être forcément lié à son devenir. Alors qu'est-ce que c'est le jugement? Bah, en fait, on regarde laquelle de ces trois ancres, a le plus de dés. Si il a le plus de dés dans la compassion, à ce moment-là, l'ange se transsubstancie et il devient humain. Donc il n'a plus accès au miracle, par définition. S'il a le plus de dés dans la fraternité, il reste déchu, mais il a utilisé ses pouvoirs divins, ses pouvoirs que le divin lui avait donnés avant, et il ne pourra plus non plus effectuer de miracle. Enfin, s'il a le plus de dés dans le souvenir, à ce moment-là, Dieu le pardonne et il devient un ange fidèle, qui va recevoir, comme les anges décrits précédemment, c'est-à-dire qu'il reçoit des révélations de Dieu et dont les miracles sont directement dictés par le Créateur. Donc il n'aura plus besoin de lancer
et
le dé.
Et là, il pourra tenir compte des relations qu'il a eues avec ses camarades pendant la partie suivante, pour devenir MJ et leur en mettre grave sur la tête.
Il ne sera pas tout à fait MJ, il sera vraiment le lien entre le MJ et les autres joueurs. Quoi. Et un dernier cas de figure, c'est si tu as une égalité. Uh-huh. À ce moment-là, tu deviens un Néphilim. Et alors là, c'est vraiment la loose, car tu es, c'est décrit dans le bouquin, tu es victime de ton indécision.
Parce que c'est la V4.
donc tu es victime de ton indécision, tu es condamné à errer tout jamais sur la terre, à la fois rejeté des hommes, de Dieu et de tes camarades. Donc il faut essayer pendant la partie de... Alors ce qu'il dit, c'est que en général, il y a quand même un moment où tu vois plus ou moins... vers quel profil tu te diriges, et c'est pas mal d'orienter tes actions en fonction de ça pour que l'histoire se finisse bien, entre guillemets. Donc c'est à peu près tout, le livre se termine sur les fiches de chaque MJ, avec à chaque fois un rappel des principes du jeu pour chaque MJ, donc par exemple... MJ Humanité, souviens-toi que les humains sont comme ça, comme ça, comme ça, avec des petits conseils de jeu en fait. Et la fiche des anges déchus qui contient aussi un rappel des règles, elles sont tellement light qu'elles tiennent sur un quart de page. Il y a aussi une liste de noms angéliques pour que ça tape un petit peu. Et surtout, le livre se termine par un colophon qui précise les typographies utilisées, pourquoi ils les ont choisies et tout. Alors, moi, étant un nerd de la typographie, j'ai beaucoup apprécié.
Pour les noms des anges, là, il n'y a pas besoin d'en faire tant d'histoires. Il suffit de rajouter L à la fin. Tu peux t'appeler Comel, Cobalel, Cyrilel, Michael, L.
L, oui, L, ça veut dire Dieu. Je crois que ça veut dire
Michael, c'est déjà un nom d'ange.
Michael, L, ouais. C'est envoyé de Dieu ou un truc comme ça, je sais plus.
Mais elle, c'est Dieu. Je sais qu'elle, ça veut dire Dieu, je sais pas, rien, aucune idée.
Donc moi, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe là, j'ai pas encore dit de choses négatives.
Bah, mais oui, qu'est-ce qui se passe, t'as pas encore dit de choses négatives.
Et ben, je te remercie de cette remarque parce que
tu t'étais spécialisé dans un jeu que tu détestais.
Voilà, et ben là, donc c'était Mickaël qui m'avait mis ce jeu dans les mains à la fin de la dernière émission. Et bien, donc j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Il est très agréable à la lecture. Je trouve que c'est très clair. Il y a pas vraiment de superflu. Il y a beaucoup d'exemples de parties, de mise en application. Des principes, etc. Je trouve que ça marche plutôt bien et ça donne vraiment envie d'y jouer. Enfin, ça fait partie des jeux chroniqués que j'essaierai avec plaisir. Alors bon, ça peut-être en rebuter certains à cause de l'aspect répartition des tâches et aussi à cause de l'aspect bac à sable qui est vraiment la poussée à fond, mais bon, personnellement, ça m'a pas dérangé. Donc voilà, on peut acheter ce jeu sur le site de sa créatrice, je sais plus, je crois que c'est elisabethsampat.com ou un truc comme ça. Bon, il coûte 7$ en PDF et en dur il coûte 15$ auquel il faut sans doute ajouter des frais de port, sachant que si tu l'achètes en dur, le PDF est inclus.
Ouais, ce qui est plutôt. Oui, alors que ouais. Moi j'ai pas eu le PDF avec à l'époque.
Voilà.
Et ce qui est marrant, j'ai vu là au tout début.
Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, ouais. En fait, sur la page titre, sur la page des crédits, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, il y a les influences de jeu. Donc, il y a Apocalypse World, Slay With Me, Time and Temp. Okay, bon, pourquoi pas, dans les principes de jeu. Les influences médiatiques. Alors, The Prophecy Trilogy, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des romans. Il y a...
C'est une série de films, en fait.
D'accord.
Avec... Christopher Walken, notamment, je crois, qui joue Gabriel.
Si d'accord.
Je dis pas de conneries.
L'ange Gabriel.
Ouais.
Ah, d'accord.
Alors ensuite, la deuxième influence, c'est la Sainte Bible. C'est précisé version King James. Et puis l'album de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Voilà. D'accord. Et ensuite, il y a une petite préface des auteurs en fait qui parle de leur foi. Et c'est vrai que j'ai vu ça notamment en allant sur le site de la créatrice. Où elle dit que, en gros, elle-même, elle a été élevée dans la foi chrétienne, et elle précise ensuite que, par contre, maintenant, elle est mariée à un agnostique hindou, que sa fille de 8 ans laisse des offrandes pour sa statue de Ganesh, et que donc, elle est un petit peu au milieu de tout ça, et c'est peut-être ça qui lui a donné l'idée d'un jeu centré sur ses croyances religieuses, quoi. Et elle disait, c'est vrai que sur son site, que voilà, tous ces jeux, il y a un aspect autobiographique, et donc celui-là, ça lui avait permis d'explorer ces principes-là, donc je trouvais ça intéressant.
Moi, je pense que quand on a d'accord. bouffé du psaume durant toute son enfance, on reste marqué par ça, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent leur vie d'artiste adulte à sortir ça de moi je pensais à Philippe Joseph Farmer parce qu'il a été très influencé par ça et du coup la religion est devenue une partie importante de son œuvre.
D'accord.
Et je pense que voilà, quand on a été dans une famille très croyante et que on a le choc culturel qu'elle semble avoir eu. On parlait juste avant l'émission des groupes de soutien pour mormons repentis. Non, mais enfin, moi, un article.
Parce qu'on discute très sérieusement, en fait. Hein.
La discussion mais très
ce qui est intéressant, en fait, là, c'est que contrairement à d'autres jeux tournés autour de la religion, enfin, on pense tout de suite à INSMV, qui est complètement déconnant. On pense à Dogs in the Vineyard, qui est pas trop en faveur de la religion.
Demon the Fallen.
Voilà. C'est des jeux qui quand même, enfin là je trouve c'est intéressant d'avoir une auteure qui vient d'une question religieuse, mais le jeu ne critique pas du tout la religion. Le jeu ne dit pas c'est n'importe quoi, Dieu est un connard, etc. C'est plus centré sur l'aspect comment vivre en fait avec ces contradictions, parce que les anges déchus c'est vraiment ça. Ils ont encore une part d'amour pour leur créateur, mais en même temps ils l'ont plus ou moins renié, donc ils sont vraiment tiraillés entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, le fait que pour une fois.
Ce qui est la position aussi du croyant qui quitte sa croyance.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais donc c'était vraiment intéressant comme postulat, quoi.
D'accord. Merci, Com.
Merci.
Donc pour jouer les routes du paradis.
c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Là, c'est plus. Non, là, c'est plus Populous, le jeu de rôle.
Ouais, c'est ça. donc Cyril, tu as à peu près 10-15 minutes devant toi. Est-ce que ça ira pour ta bulle?
Ouais, je vais me dépêcher. D'abord, je vais faire je vais revenir sur la bulle là, de l'espace, parce que j'ai commencé à lire depuis cette bulle. Donc je vous rappelais, hein, l'espace est grand. Je critiquais pas, mais je faisais remarquer que pas mal de science-fiction esquivait l'espace. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Lockstep de Carl Schroeder. Donc Lockstep, L-O-C-K-S-T-E-P, et qui présente une civilisation unifiée à travers l'espace, à travers cette barrière. Et je vous pose la question, une petite devinette, quelle est l'autre composante sur laquelle l'auteur a joué pour pouvoir faire sa civilisation unifiée à travers...
Les drones.
Des milliards de kilomètres, mais plutôt des dizaines de...
La télépathie ?
Non. C'est le temps, l'espace, le temps.
Bien sûr, c'est évident.
Mince, je l'avais sur le bout de la langue.
Alors, en fait, bon, voilà, vite fait, je vous le fais vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il y a plein de planètes et les gens. Lockstep, c'est un terme qui veut dire marcher en, comment dire, marcher au pas, quoi. En gros, qu'on marche simultanément de la même façon. Et en fait, sur toutes ces planètes, les gens hibernent durant 30 ans et ensuite se réveillent pour vivre un mois. Et donc, quand il y a un voyage pour aller d'une planète à une autre, bah, il faut juste qu'il dure moins de 30 ans et c'est bon. et donc, la civilisation vit simultanément un mois tous les 30 ans.
C'est hallucinant comme idée.
Et donc, du coup, il y a une faible empreinte énergétique aussi, puisque du coup, il y a 30 ans de production qui sont consommés en un mois. Voilà, à partir de là, c'est un univers de possibilités immense. Là, j'ai commencé récemment le roman, donc j'ai pas eu le temps de le finir.
D'accord.
Voilà, je voulais vous parler de ça. Donc, c'est un exemple de hard science, c'est de la science-fiction un petit peu dure, mm-hmm. qui n'esquive pas le problème de l'espace et qui trouve une autre solution originale. Mm-hmm. Voilà.
Quoi, quand tu dis dur, qui est ultra scientifique, quoi, de la science-fiction,
oui, qui essaye,
plus science que fiction dans l'idée, quoi. Qui s'appuie sur des hard science, qui s'appuie sur des faits,
qui s'oriente vers ça. Bon, je dis pas que c'est bon. Bref.
Quel est ton thème du jour ?
Alors, mon thème du jour, c'est, on avait dit les livres de jeux de rôle, en fait, oui. C'est plus l'organisation des livres en général, à savoir que, bon, les livres...
Il nous a blousé, là.
si on a des livres...
Vous n'avez pas vendu ça, en fait.
Et qu'on veut donner de l'information à travers ces livres, il faut l'organiser d'une certaine manière. Donc, je me souviens, j'aime beaucoup lire les livres d'histoire. Les livres d'histoire anglo-saxons sont organisés de manière un peu différente des livres d'histoire en français. Je pense qu'il y a une façon d'organiser les choses. C'est comme un peu les jardins anglais, les jardins français. Hein. Vous voyez l'idée. On peut prendre les adjectifs dionysiens, apolloniens, peut-être pour parler de l'organisation des livres. C'est-à-dire, est-ce que le livre est organisé comme un jardin français ou jardin français très bien ordonné? Apollonien, ou plutôt comme un jardin anglais un peu chaotique où il y a des
sauvages
qui a l'air plus sauvage. Voilà. Ça nous ramène au mode de lecture aussi. Déjà, moi, j'ai tendance à commencer les livres, les magazines, etc. par la fin, ce qui est pas forcément.
Ça m'arrive souvent aussi.
Ce qui est pas forcément l'objectif de, enfin, la façon dont ça a été pensé par l'auteur. Parce que souvent on n'est pas content du voyage que nous propose l'histoire dans un livre de non-fiction, alors que dans un livre de fiction, le voyage c'est vraiment tout le. Enfin, on c'est loupe quelque chose.
Ça
voilà,
fait partie de l'objectif de l'auteur. C'est forcément. Il faut le lire dans un certain sens. Alors que sur les livres qui ne sont pas des romans, forcément, il n'y a pas obligatoirement de vision éditoriale globale pour avoir une structure. Une
donc ce que j'apprécie, c'est d'avoir un certain choix dans le mode de consommation, donc d'avoir à la fois une table des matières, un index, aussi des surprises qu'on trouve sans vraiment avoir besoin de les chercher, mais qui apparaissent dans les... voilà, sur le côté, quelque part. Un petit
dans peu, des encadrés, dans des marges.
Oui, voilà. Tous ces modes de consommation me plaisent. Sur un livre de jeu de rôle, il y a aussi le mode de consommation rapide. On a besoin d'une règle ou d'une information, on veut la trouver. Mm-hmm. Voilà, donc je me pose toutes ces questions. Voilà, donc c'est quoi un livre de jeu de rôle ? En fait, je me dis, finalement, à chaque fois qu'on l'ouvre, il devrait nous donner la bonne réponse, qu'on l'attende ou pas, qu'on la cherche ou pas. ça devrait être comme Google un peu. Ouais.
Ah, c'est tu veux des livres de jeux de rôle qui soient construits comme le Hitching en fait. Enfin, je sais pas si
comme
vous
le Hitching. Le Hitching des baguettes ou
tu jettes des
baguettes en fait. C'est un système de présage, de lecture du futur entre guillemets. Et donc tu balances des baguettes et ça fait un symbole et tu vas dans le livre et ça permet d'interpréter.
Comme dans le Maître du Château, c'est ça.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Le Maître du Château est basé sur ce principe. Et l'idée, c'est que voilà, tu ouvres le livre à la page qui te dit, tu poses une question en fait, tu ouvres le livre et le livre te donne la réponse, donc sous forme de proverbe ou de phrase comme ça qui va t'aider en fait.
D'accord. Allons plus loin.
Que ce soit un livre organique en fait.
J'explique. En fait, je suis un peu geek. Bien sûr, je reste attaché au papier, etc. Blablabla. La douceur de la page, l'odeur de l'encre fraîche. Bon, ok. Parlons un peu du livre du futur. La fonction s'efface derrière le symbole. On peut imaginer Donjons et Dragons 6ème édition. Statuette de Gary Gygax ou de quelqu'un d'autre, je sais pas. Avec une puce contenant toutes les règles de Donjons et Dragons. Pourquoi pas avec un lien direct sur les forums, c'est-à-dire que la puce peut aller chercher de l'information sur les forums, peut aller poser des questions, j'en sais rien, voire peut aller poser sur les forums la question « Ah, les aventuriers s'approchent de telle chose, qu'est-ce que je pourrais leur faire comme énigme ?» Pourquoi pas un traitement technique des situations, l'ordinateur reconnaît la voix, utilise des algorithmes, etc., et puis présente des options sympathiques, ou alors répond aux requêtes. Gary Gygax, c'est quoi la règle de noyade
pour les squelettes.
Voilà. Et ensuite tout s'affiche sur nos lunettes. Bon, alors attention parce que bien sûr, vous allez me dire ah mais Google Glass, c'est énorme et tout.
Mais Google Glass, énorme et tout.
Non mais ce que je veux dire, c'est il y a encore, c'est très nouveau ces technologies, donc il y a un rejet, mais bon.
Oui, dans 150 ans, on sait pas quoi.
Les Google Lens, tu veux dire les Google Lens d'ailleurs.
C'était comme les romans, la toute première fois, on disait, mais ça survivra jamais cette technologie, enfin, c'est histoire. Donc, peut-être que dans 10 ans, tout le monde portera des lentilles connectées, j'en sais rien, mais bon, imaginons quoi. Un jeu de rôle, finalement, donc c'est surtout un mode d'emploi pour jouer. C'est pas toujours le cas, je suis d'accord, il y a des jeux de rôle à lire, blablabla. Lorenzaccio, ok, d'accord. Mais généralement, c'est quand même pour jouer.
Quelle version de Lorenzaccio c'est, quelle édition
ce ou le rivage des cirques de Julien Gracq, quoi. C'est un truc un peu sans concession. Lui, il devait pas s'emmerder. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens pas qu'il s'emmerdait à aérer son texte et à faire des petits chapitres. Hein. C'était pas le genre.
Arrête, c'est vachement bien, le rivage des cirques.
Mais c'est super, je dis pas. Quand on parle de jeu de rôle, à la base,
oui,
c'est pas de l'art pour l'art.
Oui, oui, non, ça je suis d'accord. J'ai apprécié
d'ailleurs
de lire le Rivage des Cirques.
Il y a du chapitrage.
Parce que c'est un roman, autant si on présentait un JDR qui serait la même chose, et malheureusement il y en a, moi ça me tombe des mains. Ouais. Quoi,
en fait, la question c'est est-ce qu'on souhaite imposer un effort ?
Tu as des noms de.
Les coupables se reconnaîtront s'ils nous écoutent, peut-être.
Voilà. Donc est-ce que la forme actuelle du jeu de rôle est nécessaire à l'expérience ? Dans tous les cas, je pense qu'il y a un avenir technologique au jeu de rôle sur table. C'est-à-dire, au jeu de rôle, la façon dont on le pratique actuellement, on peut imaginer, et ce n'est pas, une recherche de la technologie à tout prix, c'est pas un rejet du bon vieux jeu de rôle pizza, bière, compagnie, ou coca, pardon. C'est juste une constatation que le monde évolue, et donc, il est temps, on est en 2014 et je vois pas beaucoup d'évolution technologique dans le monde du jeu sur table.
Merde à la fin.
Sachant que j'en vois d'une manière générale, dans le monde des jeux vidéo c'est clair, hein, ils sont à fond là-dessus.
Je suis pas d'accord avec toi, Cyril.
Attends, juste dans le monde du jeu de figurines, tu as là récemment le projet de Jean Bay qui a été kickstarté, je crois. Ou qui envoie de Kickstarter, c'est-à-dire les figurines plus ordinateur, etc. Donc, bon, il y a des projets, mais alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui bouge dans le milieu de jeux de rôle sur table, technologiquement ?
Roll20,
par exemple. C'est, tu fais du jeu de rôle sur table, mais à distance.
Ok.
Okay.
Mais, ouais, je mais crois c'est que c'est une interface pour jouer. Là, son objet, c'est du jeu de rôle en lui-même. C'est-à-dire à la fois l'univers, le règle, la mécanique.
C'est une composante. Non, mais je suis d'accord.
En fait, tu veux dire le fait de, par exemple, être projeté dans un monde virtuel que tu pourrais dont l'un des personnages pourrait maîtriser les éléments.
Ah, il y aurait des elfes noirs et
c'est vraiment en fait avoir des parce que je pensais à un truc pendant que tu parlais. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec toi pour avoir étudié la question du livre numérique en général, hein, pas que le jeu de rôle. Je trouve que pour l'instant le livre numérique c'est extrêmement décevant, c'est-à-dire que la plupart du temps déjà, les livres numériques ne sont pas créés, ils sont adaptés. Donc, en fait, c'est des PDF tout cons, hein, c'est des scans. Alors que les rares créations originales, à partir qui n'ont pas d'existence physique au préalable, là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, quand tu réfléchis, mais avec un livre numérique, tu peux faire tellement de trucs. Dans un bouquin de jeu de rôle, tu pourrais mettre des vidéos avec, au lieu d'avoir la page de résumé, tu sais, avec extrait de partie à la con, là, tu mets une vidéo YouTube avec les mecs qui jouent. T'as un point de règle un peu obscur, et ben tu cliques et t'as un fichier audio du type, bah, par exemple la version commentée de Sorcerer dont je parlais la dernière fois, au lieu de s'emmerder à faire une page sur dos, il aurait fait un fichier audio.
Ou un fichier vidéo, fumer la pipe en lisant son propre livre.
Ouais, ça c'est bon, c'est un autre type de masturbation JDR. Je sais pas, t'as des règles, tu vas avoir un lien hypertexte qui va envoyer vers, comme tu disais, les forums avec... Ça met automatiquement des liens hypertextes avec les forums où les gens se posent des questions sur des points de règle. Enfin, il y a des possibilités vraiment énormes.
On est d'accord, avec l'avènement de l'ordinateur, tout le monde a commencé à penser en termes de mémoire vive, mémoire morte quelque part. Ce qui est important, c'est la réponse à la question là tout de suite. C'est pas d'avoir toute l'encyclopédie dans son armoire. C'est la question qu'on se pose là tout de suite. On a la réponse. Ça y est, c'est bon. Et c'est la même chose avec les livres. Ça sert à rien d'avoir des livres, en fait, si on peut avoir l'équivalent, peut-être sous une forme plus sympa, avec en plus des fonctionnalités qu'on a à peine imaginées.
J'aurais tendance à penser que si la question se pose du quelle règle on va utiliser et comment elle va s'appliquer, c'est que déjà il y a un problème.
Mais justement, les règles peuvent, comme la science, devenir indistinguishable from magic, comme dirait Com.
Indistinguishable from magic.
Ou Mister, c'est Clark, non?
C'est Arthur C. Clarke.
Effectivement, du coup, ça peut faire. Gary Gygax va te dire, bon, bah, de toute façon, machin se noie, j'ai fait le calcul, machin se noie, et bidule survit.
Et je suis Gary Gygax, donc ta gueule.
Voilà, le truc, c'est que sur les produits qui utilisaient le format numérique, moi, le premier produit que j'ai eu entre les mains qui tenait à peu près la route, il a déjà 8 ans d'âge, Septelus. Où sur le PDF, sur le livre, déjà, vous aviez des marges qui renvoyaient, et quand vous aviez le PDF que vous receviez quand vous l'aviez. À l'époque, ça, on n'appelait pas ça Kickstarter, on appelait ça précommandé. Sur le PDF, tu cliquais et ça envoyait les liens hypertextes existaient dedans. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, la plupart des PDF qu'on reçoit, il n'y a pas d'hypertexte.
Oui, alors que c'est,
aberrant.
Mais surtout que
ça,
c'est
je suis bien d'accord.
Mais surtout que c'est hyper simple à faire.
Mais oui.
C'est ça, en fait. C'est
ce que tu disais, c'est une adaptation du bouquin papier. Et les éditeurs, alors je ne sais pas si c'est les. Quoi. Ça peut être les éditeurs, ça peut être qui on veut, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est comme faire dans les suppléments qui sont traduits, dans les jeux de rôle qui sont traduits, où pendant très longtemps on n'avait pas d'index, ou déjà sur la VO il n'y avait pas d'index, mais sur la VF il n'y en avait pas forcément, parce que c'est très chiant à faire, mais sauf que ça rend service. Et s'ils faisaient des liens hypertextes actifs sur n'importe quel PDF, en VO ou en VF, de n'importe quel produit, fichtre, qu'est-ce que ça serait plus simple la vie. Et c'est déjà possible depuis 8 ans, en tout cas moi j'en ai un entre les mains qui date de 2006.
Je reviens sur. Je conclue sur l'objet un peu de la bulle qui était l'objet finalement du livre. En posant la question, quelle est la substance d'un jeu de rôle, est-ce que c'est le livre? Pour moi, le jeu de rôle, c'est pas. Le jeu de rôle sans livre, c'est pas le zoo de Vincennes, c'est pas un zoo sans animaux. C'est le jeu de rôle sans livre, ça peut être une étape. Qui va venir où on pourra utiliser des tas d'options pour cacher le livre dans l'environnement
des objets
tu commences à avoir pas mal de choses
il y a des trucs à inventer en fait
si on prend du Lady Blackbird ou des choses comme ça, en fait, t'as plus, on n'est même plus dans le livre, t'as tellement peu d'objets, c'est directement du support de jeu.
Oui, mais justement, le problème, il est là, c'est que quand tu vois les évolutions sur le jeu de rôle, c'est des évolutions sur la façon de jouer, sur le gameplay, mais pas sur le produit en lui-même. Il n'y a aucune... Quoi, aucune. Je dois certainement me tromper, mais il n'y a pas de réflexion profonde sur comment changer le média en lui-même.
Oui, oui, je suis d'accord. Un truc tout con, c'est par exemple le format A5. Enfin, je veux dire, c'est un truc tellement évident, tu te dis, bah oui, personne a envie de se balader dans son sac avec trois bouquins A4 de 300 pages. Ouais. Tu fais des bouquins A5, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu dois jouer avec. Et ça, c'est...
Oui, mais ça, c'est un aspect ergonomique qu'ils ont eu l'idée. D'abord, il y avait le côté économique qui a poussé à pousser dans la scène indépendante de passer au A5 parce que ça coûtait moins cher. Ouais. Ça, c'est une certitude.
Permettait de faire des petits tirages qui soient rentables.
Exactement. Print on demand aussi et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion de fond sur comment... Et d'ailleurs, sur le livre en global, il y en a beaucoup plus peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça au final. Et ça serait bien de réfléchir aux nouveaux médias, comment se présenter le jeu de rôle du futur. Comme le roman ou le photojournalisme avec photoreportage, etc. Le futur journal qu'on lit quotidien ou etc. en format autre.
Oui, oui, non, mais encore une fois, bon, c'est pas le plus vrai. Ouais, c'est pas l'objet du podcast, mais pareil, j'ai bossé sur le livre en général, et c'est exactement ce que disait Cyril, c'est-à-dire qu'au final, c'est des choses qui sont pas réfléchies, c'est-à-dire c'est des formes qui existent, la forme livre existe depuis tellement longtemps
que c'est pris pour un acquis,
alors que comme tu l'as rappelé brièvement, quand ça a été créé, enfin c'était un truc extraordinaire, le code de passer du rouleau de parchemin au codex, c'était une révolution, mais c'est une révolution qui maintenant commence à avoir pas mal de siècles derrière elle. Je dis pas que c'est forcément nécessaire d'y repenser, mais ça peut être pas mal de temps en temps de remettre en question, quoi.
C'est marrant d'ailleurs parce qu'en fait tu parles du rouleau, mais en fait avec nos tablettes, souvent, si on n'a pas d'index, en fait on fait quoi? On déroule jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne page. On est revenu au rouleau mais numérique.
PDF de merde. Non mais c'est quoi? c'est triste à dire. Mais
le PDF sans sommaire, sans index, le PDF tu peux le foutre à la poubelle. Tu peux pas le foutre à la poubelle parce que bon.
Et là on parle même pas du sujet après de la présentation d'un jeu de rôle en format bouquin lors des chapitres parce que ça c'est encore autre chose. Mais vraiment l'objet c'est triste. On a du support technologique qui nous permet de faire plein de choses. Et on a de la merde. On a de la merde. On a exactement la même chose qu'on avait il y a 30 ans.
Alors, à contrario, j'ai acheté récemment le bouquin du bestiaire de Pathfinder en PDF. Et dans le PDF, tu as des liens croisés partout.
Ah bah voilà, et du coup, ça rend le
truc juste utilisable.
Voilà. Tout à fait. C'est vrai que j'ai le livre de base de Pathfinder en VO, et c'est vrai que tu peux cliquer sur les mots, ça te renvoie. Ouais. Après, il y a le problème évidemment que ça te renvoie sur le mot-clé qui est mis X fois, donc tu vas faire comme à une occurrence si tu veux. Mais là, pour le coup,
ils renvoient tous quand tu as par exemple la spécification d'un terme,
renvoie à la fin.
Genre
flat-footed,
corps à corps, ça renvoie toujours à la définition du truc qui est à la fin dans les annexes.
Voilà,
le disait en passant, mais le problème c'est effectivement celui du coût, parce que pour faire un PDF intelligent, il faut que quelqu'un se tape le boulot, quoi. Et donc en fait, forcément, c'est plus facile pour les éditeurs de dire écoute, on va prendre. Parce qu'à la base, je veux dire, maintenant que les bouquins de toute façon sont imprimés en numérique. Oui. Ils l'ont déjà le PDF.
Exactement.
Donc il leur suffit d'un clic pour le mettre en vente et voilà.
Oui, mais à partir du moment où il est mis en traduction, forcément le mot sera pas le même, pas au même endroit. Donc on est obligé de refaire toutes les balises. Toutes les balises doivent être refaites et il faut les faire. C'est exactement le même principe de l'index avant que les liens hypertextes existent. C'était le même problème.
Ouais. En fait, il va falloir un moment qu'il y ait
une petite main qui bosse dessus et qu'il fasse. Voilà, c'est colossal comme
boulot. Et puis là, souvent, bien que ça se tende à se généraliser même dans les grosses boîtes, mais chez les petits indépendants, ils fournissaient des PDF. La plupart du temps, c'était juste que c'est du PDF fait un peu à l'arrache,
sorti d'InDesign, bête, sans aucun lien, sans rien, juste un PDF brut de fonderie.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, pour un auteur, s'il veut être sûr que les lecteurs trouveront l'information, il est obligé de mettre des mots-clés parce que les gens dans le PDF utilisent un petit CTRL F et je vais voir où se trouve l'information. Et donc, il faut faire du référencement naturel sur son propre PDF quelque part.
Ah non, on est d'accord.
Bref. Bon, les enfants, on a été un petit peu long. Tu as terminé, Cyril, ou pas d'ailleurs?
Oui, oui, c'est l'heure de la crucifade, de la panna cotta et des babouches.
Très bien, donc on se revoit tout à l'heure.
C'est les mots qui sont notés, je me souviens plus. Pourquoi
à tout à l'heure.
À tout à l'heure.